travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades. Alors, j'ai conclu beaucoup de meetings en affirmant que les travailleurs n'accepteront pas éternellement le sort qui leur est fait et qu'il y aurait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. Eh bien, je pense qu'avec la contestation des Gilets jaunes, ça devient plus concret pour tout le monde. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'une explosion sociale. La contestation des Gilets jaunes n'a mis en mouvement qu'une fraction des classes populaires. Mais on a vu s'engager dans la contestation des salariés qui n'avaient parfois jamais fait grève ni même manifesté de leur vie. On a vu des femmes que l'on n'entend jamais et qui jonglent entre quelques heures de travail et puis les enfants. Eh bien, on les a vues se transformer en meneuses. On a vu des retraités se transformer en rebelles, comme pas mal d'indépendants, d'artisans, de commerçants qui, bien souvent, ne sont pas plus riches que les salariés et qui sont eux aussi frappés par la crise. Ensemble, et en dehors de tout cadre politique et syndical, eh bien, ils ont trouvé le moyen de s'organiser en occupant les ronds-points et en manifestant. Et puis, ils ont fait preuve de détermination. Aujourd'hui, après 3 mois de mobilisation, beaucoup ont raccroché leur gilet. Mais il y a quand même eu, encore aujourd'hui, plus de 20 000 manifestants dans tout le pays. C'est-à-dire des personnes qui ont manifesté pour le 12e samedi consécutif. Et tout ça, malgré la violence des forces de l'ordre vis-à-vis des manifestants, malgré les centaines de blessés graves et malgré l'opération d'enfumage du grand débat national. Alors, oui, la capacité de révolte collective des classes populaires est bel et bien là. Et quand elles se mettent en mouvement, eh bien, elles nous surprennent par leur inventivité et par leur ténacité. Pour nous, c'est une bouffée d'oxygène. Et puis, c'est la confirmation de nos convictions. Oui, la société changera par en bas, au travers de révoltes sociales où les travailleurs prendront conscience de leurs intérêts et du combat à mener contre le grand patronat qui domine toute la société. Et la crise des Gilets jaunes nous conforte aussi dans l'objectif de construire un parti qui représente les intérêts des travailleurs et qui soit capable de faire progresser la conscience de classe dans le monde du travail. Parce que ce mouvement a été composé majoritairement d'ouvriers, de chômeurs, de précaires, de retraités du monde du travail. Mais les intérêts spécifiques des travailleurs s'y sont finalement très peu exprimés, si ce n'est de manière partielle et confuse. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été l'augmentation des taxes sur le carburant. La revendication a réuni des salariés forcés de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller travailler, mais aussi nombre d'indépendants et de petits patrons. Et puis ensemble, ils ont élargi leurs revendications à la démission de Macron, au fonctionnement des institutions, au pouvoir d'achat, à la justice fiscale. Mais sans mettre en cause la classe capitaliste, ses profits et son pouvoir. L'apolitisme revendiqué par les Gilets jaunes a été l'expression de la défiance vis-à-vis de tous les politiques. Mais ça a été aussi un moyen de taire les désaccords et les oppositions pour préserver l'unité. Et de fait, les revendications des travailleurs qui les opposent au grand patronat ont été édulcorées ou sont passées au second plan. Les travailleurs le problème, c'est dont il faut être conscient, c'est que les travailleurs ne défendront pas leurs intérêts en recherchant un consensus qui ne peut pas exister dans la population. La société est divisée en classes sociales et les intérêts des travailleurs s'opposent à ceux du grand patronat. Et pour que les travailleurs fassent réellement avancer leur sort, que ce soit en matière d'emploi, de salaire ou de retraite, eh bien, il faut prendre sur les profits. C'est-à-dire qu'il faut s'attaquer à la classe capitaliste. Et il faut que les travailleurs soient conscients d'appartenir à un camp qui doit se battre pour ses intérêts contre le grand capital. La conscience de classe, ce n'est pas réclamer le partage des richesses. C'est être conscient que la bourgeoisie ne partage pas. Et c'est être conscient que les travailleurs ont à la combattre avec la perspective de la renverser elle et son système capitaliste. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers Macron et contre Macron. C'est bien naturel. Il est le président de la République et il porte une grande responsabilité dans le recul des conditions de vie de la classe ouvrière. Sa politique, tout le monde le dit et le répète, est favorable aux 0,1% les plus riches. Lorsqu'il fait un geste en faveur des classes populaires, que ce soit l'augmentation de la prime d'activité ou la baisse de la taxe d'habitation, eh bien, il nous le fait payer d'une façon ou d'une autre. Nombre de salariés, de cheminots subissent aujourd'hui l'impact des réformes anti-ouvrières de Macron. Et demain, ce sera le tour des fonctionnaires et des chômeurs. Parce que, comme Macron l'a dit en marge d'un déplacement du grand débat, il y en a qui font bien et il y en a qui déconnent. Eh bien oui, même aujourd'hui, alors qu'il est reparti en campagne pour redorer son blason, eh bien il ne peut pas s'empêcher d'étaler son mépris vis-à-vis du monde du travail. Alors c'est sûr, Macron n'a pas volé le rejet et la haine qu'il inspire. Mais il faut aussi comprendre qu'il sert de paratonnerre. Il est le réceptacle de la foudre sociale et il protège les véritables profiteurs de la situation, ceux qui tirent les ficelles et qui dominent toute l'économie, les capitalistes. Et indépendamment de Macron, c'est bien la domination de cette classe capitaliste qui nous mène à la catastrophe. Parce que son système est désormais en crise permanente, parce qu'on s'y enfonce et parce qu'on n'en sortira pas. Toute l'histoire du capitalisme est ponctuée de crises régulières. Mais à ses débuts, cela ne l'empêchait pas de connaître, entre deux crises, de vraies périodes de développement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Depuis la crise de 1971, nous sommes en crise permanente, parce que le capitalisme a atteint ses limites. Il n'a plus de perspective de développement de la production. Les marchés sont saturés. La surproduction est généralisée et elle condamne l'économie mondiale au marasme. Pour accroître ses profits, la bourgeoisie n'a plus que deux solutions. Participer à la guerre commerciale en se montrant encore plus féroce que ses concurrents pour leur piquer des parts de marché et donc imposer au nom de la compétitivité des suppressions d'emplois, l'écrasement des salaires, l'aggravation des cadences et la flexibilité. Et cela, c'est vrai aussi pour les services publics, pour la poste, les hôpitaux, parce que l'État ne peut plus les financer correctement, puisqu'il consacre de plus en plus d'argent à soutenir le grand capital. Et puis, le deuxième moyen qu'a la bourgeoisie de garantir et d'augmenter ses profits, c'est d'investir dans un secteur qui offre, lui, des débouchés illimités, la finance. C'est ainsi que des sommes extravagantes alimentent chaque jour la spéculation et menace d'emporter toute l'économie dans un nouveau krach. Autrement dit, le capitalisme nous condamne à la crise et à une lutte de classe de plus en plus féroce de la part de la bourgeoisie. Et les victimes ne sont pas seulement les ouvriers, les employés, mais aussi nombre de petits patrons, de commerçants, d'artisans, qui, tout en travaillant d'arrache-pied, ne vivent pas mieux que les salariés. En réalité, toute la société et même la planète vont vers la catastrophe. Parce qu'on peut parler d'écologie. Et on en parle tous les jours. On n'en a jamais autant parlé. Et tout le monde, évidemment, se sent concerné. Mais ceux qui nous dirigent n'ont pas le début d'une solution. Et on va droit dans le mur. La crise du capitalisme, ce sont aussi les rivalités entre les bourgeoisies nationales qui nous ont déjà menés à deux guerres mondiales. Aujourd'hui, des millions de femmes et d'hommes chassés de leur pays par la guerre, l'oppression ou la misère s'entassent dans les camps infâmes où sont traqués et condamnés à errer de pays en pays quand ils ne meurent pas dans la traversée de la Méditerranée. Il y a partout des foyers de guerre qui menacent de transformer en une guerre plus générale, qui menacent de se transformer en une guerre plus générale parce qu'ils sont aussi le théâtre de rivalité des grandes puissances. Et puis, on assiste partout à la montée de l'extrême droite et à l'emprise croissante des idées réactionnaires. Dans toute l'Europe, la crise économique, les plans d'austérité, le chômage, le désespoir face à la crise nourrissent des courants nationalistes, xénophobes et anti-européens. Alors oui, le capitalisme nous plonge dans un monde de plus en plus barbare. Et militer parmi les travailleurs pour défendre la nécessité de renverser cet ordre pourrissant, eh bien, c'est la seule perspective. Toute la société est écrasée par le rouleau compresseur du grand capital. Et nous ne résoudrons pas le problème en changeant de président de la République, en rafraîchissant les institutions ou en instaurant le référendum d'initiative citoyenne. Cela fait des décennies que l'on vote pour changer de président. Et rien ne change. On a toujours droit à la même politique anti-ouvrière. Parce que gouverner dans le cadre de la domination du grand capital, eh bien, c'est forcément se soumettre à la loi de celui qui a de l'argent. La minorité capitaliste monopolise dans ses mains une masse de capitaux et détient plus de pouvoir économique que les présidents ne peuvent en avoir à la tête des États. C'est cette minorité de grands bourgeois non élus qui gouverne les grands groupes industriels et financiers et fait la pluie et le beau temps sur l'économie. Ce ne sont pas les gouvernements. C'est le pouvoir des actionnaires de Ford ou de PSA de fermer une usine, celui de Sanofi ou de Renault de gaver leurs actionnaires et de bloquer les salaires. C'est le pouvoir de Vinci de transformer les autoroutes en caisses enregistreuses ou encore celui des banques de se transformer en casinos. Quant à croire qu'il suffirait de nouvelles lois pour combattre la rapacité des capitalistes, c'est une illusion. Quand les lois qui encadrent le fonctionnement des entreprises les gênent, un tant soit peu, eh bien ils ont mille et un moyens de les contourner ou de les ignorer. Combien de patrons ne payent même pas les heures supplémentaires de leurs salariés ? Combien de travailleurs enchaînent des horaires délirants en toute illégalité ? Et cela se fait souvent parce que les travailleurs eux-mêmes s'interdisent de revendiquer leurs droits par simple peur de perdre leur boulot. Alors non, on n'arrêtera pas les méfaits du grand capital en multipliant les appels au vote ou au référendum. Le pouvoir de la bourgeoisie de faire ce qu'elle veut de ses capitaux et sa force sociale ne dépend ni des lois ni des institutions. Il repose sur ses capitaux. Eh bien, si on veut lui enlever son pouvoir de nuisance, il faut lui enlever ses capitaux, c'est-à-dire l'exproprier. Le mouvement des Gilets jaunes a exprimé la volonté de mieux contrôler ce que font l'État et les élus de l'argent de nos impôts. C'est parfaitement légitime. Mais contrôler ce que fait la classe capitaliste des richesses créées par l'ensemble du monde du travail l'est tout autant. On revendique que le budget de l'État et l'argent public soient dépensés le plus utilement possible. Mais l'utilisation des capitaux qui sont accumulés par les entreprises échappe à la société, au prétexte qu'ils sont propriété privée. Il est interdit de contrôler l'usage fait de ces capitaux, il est interdit de les réquisitionner, quand bien même la société en aurait un besoin urgent pour investir dans le logement, les transports, la santé ou l'éducation. Et ce, alors qu'ils sont créés par le travail collectif de dizaines de milliers de travailleurs. C'est cela qu'il faut changer. Si l'on refuse qu'une infime minorité décide seule de choix engageant toute la société. La véritable démocratie et le pouvoir du peuple n'auront de sens qu'une fois cette minorité détrônée, quand toute la population pourra donner son avis et surtout participer aux décisions sur la façon de gérer collectivement les grandes entreprises qui dominent l'économie, ce qui nécessite d'exproprier le grand capital et de collectiviser les moyens de production. Il y a un tabou à faire tomber. C'est le tabou du capitalisme et de la propriété privée. On nous met dans le crâne depuis toujours que le capitalisme, c'est d'abord la liberté et le respect de la propriété privée de chacun. Mais c'est surtout la liberté et la propriété privée des plus riches. Car quelles sont celles des travailleurs ? Où est la liberté pour les 6 millions d'entre nous qui sont condamnés au chômage ? Pour ceux dont les salaires sont tellement bas qu'ils ne permettent même pas de régler toutes leurs factures ? L'écrasante majorité des travailleurs ne choisissent ni leur métier, ni leur entreprise. Et une fois embauchés, eh bien, ils obéissent aux ordres. Ils doivent travailler selon les horaires, les rythmes imposés. Quant à la propriété privée du monde du travail, Elle se réduit à bien peu de choses. Nombre de salariés, d'employés sont dans l'incapacité de s'acheter ne serait-ce qu'une voiture qui roule. Et pour acheter un appartement ou une petite maison, eh bien la plupart d'entre eux sont forcés de s'éloigner des villes et de leur lieu de travail et de s'endetter sur des décennies. Et dès qu'il y a un licenciement, ou ce qu'on appelle maintenant un accident de la vie, eh bien on perd tout. Et combien de patrons, petits et moyens, ont fini ruinés ou avalés par les plus gros? Alors, derrière ce principe prétendument sacré de la propriété privée, il y a surtout le droit de la bourgeoisie d'exproprier la grande majorité à son profit. Le respect de la propriété privée fait partie des chaînes que les travailleurs doivent briser. Marx disait « il faut exproprier les expropriateurs ». Eh bien, c'est plus vrai que jamais. Alors cette conscience révolutionnaire, elle est loin de l'état d'esprit actuel des travailleurs. L'expropriation du grand capital et la collectivisation des moyens de production peuvent paraître éloignés et décalés par rapport aux revendications élémentaires des travailleurs. Le droit de disposer d'un travail pour ceux qui n'en ont pas, un pouvoir d'achat pour faire face aux dépenses quotidiennes de la famille, une retraite convenable, le droit de vivre dignement, tout simplement. Mais en réalité, les deux sont indissociables. Avec la crise, dans cette situation où la bourgeoisie est à l'offensive pour reprendre des droits aux travailleurs, toute revendication, un tant soit peu sérieuse, venant des salariés, fera l'objet d'une lutte âpre et difficile. Et lorsque les travailleurs se battront vraiment pour leurs intérêts de classe, eh bien ils feront leur expérience. Et ils réaliseront que tant que la bourgeoisie tient les rênes des grands groupes industriels et financiers, elle les baladera. Et le seul moyen d'avancer réellement, eh bien, c'est de contrôler ce qui se passe dans les entreprises. Oui, la question du pouvoir et de l'expropriation de la bourgeoisie se posera, comme elle s'est déjà posée lors de nombreuses luttes sociales. Et c'est alors que la classe ouvrière prendra conscience de cette vérité que si elle veut vivre, le capitalisme doit mourir, comme l'affirmaient les communistes des années 20. Alors oui, la lutte pour les revendications quotidiennes, immédiates, et la lutte pour l'émancipation totale des travailleurs ne doit faire qu'un seul et même combat. Et il faut que dès aujourd'hui, les travailleurs les plus combatifs s'en convainquent. Militer pour les intérêts des travailleurs, c'est militer pour la révolution sociale. Quel que soit le devenir du mouvement des Gilets jaunes et la conclusion de ce grand cirque qui est le grand débat national, le mécontentement ne peut que grandir. La crise va pousser de plus en plus de gens à agir, non seulement des travailleurs salariés, mais aussi nombre d'autres catégories sociales frappées eux aussi par cette crise. Des petits patrons, des artisans, des agriculteurs. Alors, des révoltes, il va y en avoir. Elles viendront de tous les côtés. Mais de toutes ces révoltes, nous pensons que celle qui peut offrir un avenir à la société est celle des travailleurs rassemblés dans les bastions capitalistes que sont les grandes entreprises. Notre choix de nous adresser spécifiquement aux travailleuses et aux travailleurs vient du fait qu'il n'y a pas de classe sociale mieux placée pour renverser la bourgeoisie. Ce n'est pas qu'ils ont une conscience révolutionnaire supérieure aux autres catégories sociales. Comme c'est le cas de tous les exploités, en dehors des périodes révolutionnaires, eh bien, ils acceptent leur sort. Et ils sont marqués par les valeurs diffusées par le capitalisme, que ce soit l'individualisme, la réussite personnelle ou le nationalisme. Mais ce qui caractérise les travailleurs, c'est qu'ils sont au cœur même de ce qui fait le pouvoir de la bourgeoisie. Les entreprises, là où se créent les richesses. Et ils sont en but direct avec la bourgeoisie. Pour sauver leurs conditions d'existence, eh bien, ils sont forcés de s'y affronter. Il suffit de franchir la porte d'une entreprise pour comprendre qu'il faut se défendre au quotidien, que ce soit pour résister aux cadences, se faire payer ses heures de travail ou tout simplement pour se faire respecter. Et cette résistance, eh bien, elle s'exerce de différentes façons. On peut traîner les pieds, on peut faire semblant de ne pas avoir entendu tel ou tel ordre. Et puis, on peut aussi agir collectivement. pétitionner, se rassembler pour aller voir la direction, débrayer, jusqu'à se mettre en grève. Et c'est là, au cours de cette action collective, que les travailleurs découvrent leur puissance sociale et leur capacité à changer le rapport de force avec le grand patronat. Eh bien, notre raison d'être de militants communistes révolutionnaires, c'est d'aider la classe ouvrière à mener ses combats jusqu'à ce qu'elle accède à cette conscience que la tâche de transformer la société dépend d'elle et qu'elle en est capable. Parce que, oui, les travailleurs seront capables de faire tourner l'économie sans la bourgeoisie. D'ailleurs, dans l'écrasante majorité des cas, la bourgeoisie ne met même pas les pieds dans les entreprises qui la font vivre. Quelqu'un rappelait tout à l'heure que Renault continue de fabriquer des automobiles, hein, même si Ghosn est effectivement en prison depuis maintenant plus de 2 mois et demi. Donc dans l'écrasante majorité des cas, la bourgeoisie ne met même pas les pieds dans les entreprises, à supposer qu'elle connaisse même celle dont elle est actionnaire. La bourgeoisie, elle ne dirige même pas. Elle passe à la caisse et elle en demande toujours plus. Ce sont les travailleurs qui font tout tourner. Aujourd'hui, c'est pour le compte d'une minorité parasite. Eh bien, demain, ils pourront la faire tourner pour le plus grand nombre. Collectivement, la classe ouvrière a la capacité de réorganiser l'économie au service de tous. Et ce pouvoir, elle l'exercera 1000 fois mieux que la bourgeoisie. Oui, les travailleurs et les classes populaires sont tout à fait capables de diriger les entreprises et toute la société. Prenez les salariés des EHPAD qui se dévouent aux côtés des anciens pour un salaire de misère. Prenez les ouvriers qui s'esquintent la santé sur les chantiers du bâtiment, des travaux publics. Prenez les ouvriers des chaînes de montage, les bataillons du nettoyage, du gardiennage et de la grande distribution. Eh bien, ces femmes et ces hommes savent ce que cela veut dire travailler et devoir se serrer la ceinture. Et ils représentent 1000 fois mieux la vie et les intérêts de la majorité de la population. Et nul doute que s'ils accédaient au pouvoir, eh bien, ils auraient, eux, pour priorité de satisfaire les besoins essentiels des plus pauvres. Et tous les problèmes qui apparaissent aujourd'hui comme insolubles, loger tout le monde, soigner, donner du travail et de l'éducation à tous, accueillir les migrants, eh bien, tous ces problèmes trouveraient leur solution parce que les décisions ne seraient plus guidées par les intérêts égoïstes d'une minorité. Et pour finir, je veux dire 2 mots sur les élections européennes. Donc, Lutte ouvrière présentera une liste aux européennes que je conduirai pour défendre les idées que je viens de développer ce soir. Sur la question de l'Europe, nous affirmerons notre internationalisme. Nous sommes de ceux qui affirmons fièrement que notre pays, c'est la Terre et notre patrie, l'humanité. C'est dire... C'est dire que nous pensons que l'Europe devrait être unifiée depuis bien longtemps. L'histoire, l'économie, la vie sociale des différents pays européens est étroitement entremêlée depuis maintenant plus d'un siècle. Les entreprises se déploient à l'échelle européenne. Il suffit de quelques heures d'avion pour franchir 2, 3, 4 frontières en Europe. Cette division de l'Europe, qui n'est en plus qu'un petit bout, d'un continent, est complètement anachronique. Mais l'unification de l'Europe, qui serait un progrès, eh bien, il ne faut pas l'attendre de la bourgeoisie. Cela fait plus de 60 ans que les dirigeants européens essayent laborieusement de construire l'Europe et ils n'y sont toujours pas parvenus. Et aujourd'hui, avec le Brexit, l'Europe est même en train de reculer. Parce que, comme tout ce que fait la bourgeoisie, eh bien, elle le fait de travers. Parce qu'il n'y a que son business et ses profits qui comptent. Alors l'Union européenne qu'elle a construite n'a évidemment rien pour plaire aux travailleurs. L'Europe n'a rien fait pour eux, si ce n'est d'organiser leur mise en concurrence. Et qu'est-ce que signifie la solidarité européenne ? Rien. Il suffit de se souvenir de la façon dont la Grèce a été traitée en 2011 et de voir aujourd'hui les pays européens se repasser les migrants qui arrivent sur les côtes comme des patates chaudes pour comprendre que l'Union européenne n'est pas cet espace de solidarité que certains nous vendent. Même sur une revendication qui semble évidente à la grande majorité, la taxation des GAFAM, L'Europe montre son incapacité à avancer parce que l'Allemagne a peur des rétorsions américaines et parce que l'Irlande n'y a pas intérêt. Alors oui, l'Europe n'est pas belle à voir. Mais les États nationaux ne le sont pas plus. Tout ce que la bourgeoisie sait faire, c'est de construire des machines à opprimer les plus faibles. Alors notre objectif, ce n'est pas de dénoncer l'Europe, c'est d'abattre le capital. Si de nombreux travailleurs se trompent et sont trompés en mettant sur le compte de l'Europe ou de l'euro la dégradation qu'ils subissent, il ne faut pas les conforter dans cette illusion, mais au contraire leur ouvrir les yeux sur les seuls véritables responsables, nos exploiteurs. Nos conditions de travail ne dépendent pas de l'Europe, mais de la bourgeoisie qui décide. Quant aux salaires, s'ils sont fixés trop bas, qu'ils soient payés en francs ou en euros, eh bien ils resteront trop bas. Encore une fois, dans cette élection, nous nous adresserons aux travailleurs en mettant en avant leurs intérêts de classe et en ne se laissant pas prendre au jeu des partis bourgeois. L'Europe leur donne l'occasion de s'opposer et de faire croire qu'ils représentent des options qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. En réalité, ils se moquent complètement de l'Europe. Ils s'en moquent comme de leur dernière chemise. Et c'est un sujet sur lequel ils peuvent d'ailleurs très, très facilement retourner leur veste. Comme vient de le faire Le Pen, en renonçant finalement à la sortie de l'euro. Mais c'est un petit jeu politicien qui leur permet de faire croire à un nouveau clivage qui remplacerait le clivage gauche-droite et qui entretient la fiction d'une possible alternance, alors qu'au bout du compte, ils défendent tous le même ordre social. Les travailleurs se sont fait piéger trop longtemps par ce clivage gauche-droite. Et il ne faut pas qu'ils tombent dans le piège des pros et des anti-Europe qui les poussera fatalement dans les bras des partis bourgeois. Dans cette élection, eh bien, il faut affirmer que les travailleurs n'ont qu'un seul intérêt à défendre, c'est leur peau, leurs conditions de travailleurs. Il faut mettre en avant les revendications élémentaires du camp des travailleurs contre le grand capital et la perspective de renverser tout l'ordre social capitaliste, seul perspective pour offrir un avenir à toute l'humanité. Eh bien, on va reprendre ensemble l'international.
Debout les damnés de la terre.
Debout les forces.